Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'Allée. La 8e chronique déjà. Bonjour Muriel.
Bonjour Corentin.
Alors tu es venue accompagnée de Anne qui est de la Seine, c'est ça ?
Du Seine, le Conservatoire des espaces naturels de Lozère, tout à fait.
D'accord, donc on va rentrer dans un cycle un peu spécial. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, alors en fait le 2 février prochain, ce sera la journée mondiale des zones humides. Donc dans cette idée-là, on a prévu de faire un cycle justement un peu axé sur les zones humides et les richesses de la Lozère par rapport à ça. Alors cette année, il faut savoir que c'est les modes de vie durables qui sont à l'honneur. Ce thème a été choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour l'avenir de l'humanité et en particulier leur pertinence pour la réalisation des nouveaux objectifs de développement durable. Alors pour en ce qui concerne la Lozère est surnommée le département des sources car c'est le seul département français métropolitain où toutes les rivières qui s'y écoulent prennent leurs sources sur son propre territoire. Donc trois importantes rivières prennent naissance en Lozère, le Tarn, qui prend sa source sur le mont Lozère, le Lot, qui prend sa source sur la montagne du Goulet, et l'Allier, qui notamment fait la frontière, la limite nord-est du département avec l'Ardèche. Donc on est le seul département français à alimenter trois grands bassins versants, l'Adour-Garonne pour le côté Tarn et Lot, le bassin Rhône-Méditerranée et le bassin Loire-Bretagne avec l'Allier. Donc la Lozère présente une remarquable diversité en matière de climat et de géologie. Ces différents facteurs associés ont contribué à créer des milieux humides très divers et ont permis à une faune et une flore de se développer et de trouver refuge. C'est ainsi que l'on trouve aujourd'hui des sources, des torrents, des rivières, des gorges, des étangs et des prairies humides. Mais le milieu qui va faire l'objet de notre émission d'aujourd'hui est un endroit très particulier. Longtemps dénigré, associé souvent à des conditions rudes et des espèces étranges, il s'agit des tourbières. Alors pour en parler, on accueille Anne, qui est spécialiste des tourbières. Bonjour Anne.
Bonjour.
Est-ce que d'abord tu peux nous présenter rapidement le conservatoire ?
Oui. Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère donc, est une association qui fait de protection de la nature, qui fait partie du réseau des conservatoires naturels qui existent partout en France. Et donc on a un objectif principal qui est la préservation de la biodiversité par la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et via le développement de partenariats avec les acteurs locaux. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de métier. On développe un volet qui est associé, qui est destiné à la connaissance des milieux naturels et de la biodiversité qui est liée. Et puis un volet également d'information, de formation des gestionnaires et d'information un petit peu plus générale au niveau des étudiants et du grand public.
D'accord. Alors à propos des tourbières, je ne sais pas si toi Corentin, tu sais ce que c'est une tourbière ?
Pas bien, non. Je pense que j'irais une bêtise si je devais la définir. Oui.
Alors Anne, on t'écoute.
Peut-être avant de parler des tourbières, ça serait peut-être intéressant de rappeler ou d'aider à mieux comprendre ce que c'est qu'une zone humide. Une zone humide, c'est un milieu naturel qui est indissociable de l'eau. Donc c'est pas tout à fait un milieu purement aquatique avec que de l'eau, c'est pas un milieu terrestre sans eau, c'est entre les deux. Donc voilà, ça fait à la fois la complexité de la définition de ce que c'est qu'une zone humide et puis en même temps toute sa richesse parce que ce sont au final des milieux qui ont une grande diversité de végétation, d'espèces à la fois végétales et animales.
Et qui évolue.
Et qui peut évoluer en fonction de la gestion qui est appliquée à ces milieux, en fonction de la géographie, de leur situation à l'échelle des bassins versants, enfin de tout un tas de conditions, on va dire de conditions biologiques, écologiques, pédologiques et humaines, et des facteurs humains également.
Et donc on retrouve les tourbières seulement dans les zones humides.
Alors, les tourbières font partie de ce grand,
cette grande famille,
voilà, d'accord, que constituent les onimides. Et on va dire, elles, c'est les championnes du lien fondamental qu'il y a entre milieu humide et eau. Pour qu'on observe une tourbière, il faut qu'on ait toujours des apports en eau qui soient supérieurs aux sorties. Donc voilà, ça c'est vraiment la condition sine qua non. Et c'est des milieux qui sont particulièrement du coup sensibles à toute atteinte sur de leur fonctionnement, de leur alimentation en eau.
Ok, donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui reconnaître une tourbière ? Concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'une tourbière ?
Alors on va observer la végétation. Parce que ce sont des milieux qui sont donc gorgés d'eau stagnante et donc les conditions de vie pour les espèces, pour les plantes, sont particulièrement compliquées. Et au fil de l'évolution, en fait, les espèces se sont adaptées à ces conditions de vie difficiles, à savoir un milieu où on a de l'eau stagnante quasiment en permanence, ça veut dire un milieu où on a très très peu d'oxygène. Donc il faut que les plantes qui arrivent à y pousser arrivent à trouver dans des conditions de vie qui sont pauvres, parce qu'on a très peu d'éléments nutritifs qui sont directement disponibles, il faut que les plantes s'adaptent. Et du coup, en termes d'évolution, on va observer des espèces, les stars des tourbières, ce sont les plantes carnivores, avec en Lozère donc notamment les petites Droseras à feuilles rondes, alors qui sont des toutes petites plantes, hein, il faut pas s'attendre à des espèces qui mesurent 30 cm de haut, c'est vraiment tout petit. Mais en fait, elles se sont adaptées pour essayer de trouver l'alimentation, les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour croître, en capturant, entre guillemets, en attirant en tout cas les insectes, moucherons, les diverses insectes qui vont être attirés par la plante.
Voilà, donc en fait, c'est un milieu froid, humide, acide et pauvre en éléments nutritifs, donc elles ont réussi à trouver une autre source de nourriture.
Alors, la première condition pour qu'on ait tourbière, c'est l'eau. Les facteurs effectivement que tu cites, donc à savoir l'acidité, le froid, ça va être des facteurs qui vont favoriser encore plus la présence de tourbières. Mais sur à l'échelle mondiale, on peut observer des tourbières dans des zones chaudes.
Chaudes.
Il se trouve qu'effectivement en France, au niveau mondial, on va trouver l'aire optimale de répartition des tourbières, c'est la zone boréale. Et on va retrouver sous nos latitudes ces milieux, mais à des altitudes plus élevées. Mmh. Donc plus on va aller vers des conditions chaudes, plus on va retrouver les tourbières à des altitudes élevées.
Donc concrètement, en Lozère, on en a plutôt au nord ou au sud ?
Concrètement, on en a au nord et au sud, mais on a les plus grandes surfaces sont situées sur les massifs granitiques. Ça, c'est lié vraiment à l'apport en eau. Mais on a également sur les massifs granitiques que sont le plateau de l'Aubrac à l'ouest, la Margeride pour la partie nord, et donc les tourbières, on va les trouver plutôt au-dessus de 1100-1200 mètres, donc sur les crêtes de la Margeride. On va en trouver sur le mont Lozère, et puis on va trouver des petites zones humides adjalines, donc là qui sont pas du tout sur un substrat granitique, donc pas acide, en bordure des gorges. Mais effectivement, sur la Lozère, ce sont des tourbières de petite surface. Vraiment des petits, mais qui abritent toutefois une biodiversité tout à fait intéressante.
D'accord, donc on a les plantes carnivores qui sont effectivement les stars de nos tourbières. On a aussi d'autres plantes, d'autres espèces emblématiques dans ces milieux-là ?
Oh, il y a effectivement beaucoup d'espèces qui sont à la fois caractéristiques, rares et effectivement emblématiques. Elles sont emblématiques parce qu'elles sont souvent, en tout cas dans une forte proportion, le résultat de l'évolution depuis les dernières glaciations. En fait, à l'époque des dernières glaciations, évidemment, les conditions de climatiques étaient différentes de celles qu'on observe aujourd'hui. Et les espèces qu'on va trouver dans les tourbières du massif central aujourd'hui étaient des espèces qui étaient probablement beaucoup plus répandues sous nos latitudes et qui ont trouvé refuge après les glaciations dans ces milieux parce que on a des microclimats, on a des conditions de vie qui sont contraignantes.
Voilà, après le réchauffement, donc, c'est les seuls îlots où elles ont pu.
Voilà, c'est pour ça qu'on dit que on dit que les tourbières sont des constituent des zones refuges pour de nombreuses espèces. Alors on n'a pas forcément un nombre d'espèces, notamment d'espèces végétales très très important au sein des tourbières, mais par contre quasiment chaque espèce est vraiment inféodée à ces milieux. Donc si le milieu disparaît, le cortège d'espèces et les espèces disparaissent.
Donc, si j'ai bien saisi, les tourbières, ça transforme un petit peu la biodiversité qui est présente vraiment dans les alentours. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de connotation un peu négative. C'est positif ou négatif de la présence d'une tourbière ?
Alors, c'est comme tous les sujets, on peut avoir différents points de vue. Bon, pour nous, naturalistes, et ben forcément, on est tout fou, parce qu'on a beaucoup d'espèces avec des stratégies adaptatives, des espèces rares, tout un cortège qui est vraiment passionnant. Et on le voit aussi en matière d'éducation à l'environnement, c'est vrai que c'est des milieux qui ont un potentiel pédagogique assez hallucinant, parce que à la fois, c'est un patrimoine naturel, donc un réservoir de biodiversité, c'est un patrimoine culturel. Il y a eu beaucoup de recherches, et il y en a encore, qui sont réalisées pour essayer de retracer l'histoire des paysages. Donc on a quand même, parce que dans les tourbières, on a de la tourbe. Et la tourbe, c'est la matière organique qui est quasiment conservée à l'état brut dans l'eau. On a très très peu la transformation de la matière végétale, est très très lente, voire quasi nulle. Donc du coup, bah, dans cette tourbe, on va pouvoir retrouver des
vieux pollens.
Tout un tas d'éléments, mais qui remontent aux dernières glaciations. Donc ça, c'est un côté qui est quand même très très intéressant. Et puis il y a des enjeux qui sont de plus en plus prégnants aujourd'hui, qui sont liés à la ressource en eau. Alors là, c'est pas uniquement les tourbières, mais les tourbières ont quand même un rôle très très important, d'autant qu'en Lozère, elles sont quasiment toutes situées en extrême tête de bassin. Et donc par rapport à la régulation de la ressource en eau, toutes les zones humides jouent un rôle, les tourbières en particulier en tête de bassin, mais on peut pas, là pour le coup, on peut assez difficilement les dissocier des autres types de zones humides dont tu as fait référence tout à l'heure, donc comme les prairies humides par exemple.
Voilà, donc on peut peut-être développer un peu ce rôle, notamment par rapport à la régulation de l'eau. On est quand même dans une région qui est assez sujet à des épisodes cévenols, à des fortes précipitations, en tête de bassin aussi. Alors quel est le rôle justement, comment ça se fait que les tourbières jouent ce rôle de régulateur de l'eau, notamment par rapport aux inondations et aux sécheresses? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ?
Expliquer rapidement, c'est pas forcément facile, mais effectivement, en deux mots, peut-être un petit peu plus. En fait, les zones humides en général, et les tourbières en particulier, vont jouer un rôle, alors, d'éponge, entre guillemets, mais je préfère dire régulation, c'est-à-dire qu'elles vont tamponner les effets des épisodes, notamment de fortes pluies ou de sécheresse. Donc elle tamponne parce que une zone humide et une tourbière en particulier. Donc quand il va pleuvoir, si on est en période, si ça fait longtemps qu'il a pas plu, la zone humide va avoir un effet déjà sur l'écoulement des eaux, parce que ce sont des milieux où on a quand même une végétation qui est relativement dense. Donc il va y avoir un effet physique de ralentissement des écoulements et puis un effet de stockage. Et dans les périodes, donc ça jusqu'à un certain point, après s'il pleut pendant des mois, la zone humide, une fois qu'elle est remplie, elle est remplie, hein, donc après, bah, au contraire, elle va relarguer. Et dans les périodes des plus sèches, l'eau qui a été stockée dans ces milieux va être relarguée progressivement. Voilà, alors ça c'est assez schématique, mais à l'échelle d'un bassin versant, c'est un effet qui est aujourd'hui connu, qui est développé par les recherches scientifiques et qui est... complexe parce qu'il faut bien maîtriser les choses, mais on sait que l'effet cumulé de la présence cumulée de zones humides à l'échelle d'un bassin versant a un effet très important par rapport à la ressource en eau. Et on en dépend tous, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors du coup, voilà, c'est un super réservoir de biodiversité. C'est aussi un lieu où on va pouvoir avoir des indications très importantes sur les paysages. Des milliers d'années qui se sont écoulées. C'est un patrimoine culturel aussi parce qu'on utilisait la tourbe pendant très longtemps pour se chauffer. Il y a c'est un réservoir culturel également. Et du coup, ça permet aussi de tamponner les crues et les inondations. Donc, on comprend bien tous ces rôles-là. Aujourd'hui, la thématique 2016 de cette journée mondiale des zones humides, c'est bien les modes de vie durables. Alors, comment est-ce qu'en Lozère, on peut allier préservation des paysages, de l'activité économique agricole, qui est très présente en Margeride notamment, et la préservation des tourbières? Est-ce que c'est possible d'allier protection de l'environnement et activité agricole?
Ah bah on espère, parce que c'est effectivement d'abord le cœur des actions que le conservatoire développe. Alors au niveau de la préservation des milieux naturels en général et des milieux humides en particulier, parce que c'est ça fait très longtemps qu'on travaille sur les milieux humides et les tourbières, donc on essaye de développer des partenariats avec tous les gestionnaires locaux donc qui interviennent sur ces milieux et notamment les agriculteurs. Donc à l'heure actuelle, on a une cinquantaine de partenariats avec principalement des éleveurs. Et puis quelques partenariats avec des communes ou avec des propriétaires privés. Mais c'est vrai que effectivement le lien en tout cas en Lozère entre tourbières et agriculteurs éleveurs est important. Et alors il y a des gens qui sont de bonne volonté partout et c'est le cas aussi dans le monde de l'élevage. Et on arrive tout à fait bien à travailler avec les gens qui sont de bonne volonté.
Donc ça revient à mettre en place un pâturage plutôt extensif, à limiter les périodes de pâture justement, ou...
Alors bon, on n'a pas une approche comme ça. Ça s'est fait aussi un petit peu au fil du temps, puis en fonction des connaissances qu'on peut avoir des sites. On n'a pas une approche comme ça a priori de dire il faudra changer ça, il faudra changer ci. On va plutôt d'abord observer. Alors en général, quand les gens sont demandeurs d'informations naturalistes en particulier, bah ça veut dire qu'ils sont ils ont envie de savoir et de mettre en valeur en fait leur façon de faire pour montrer que effectivement bah ils sont aussi, enfin c'est plutôt le fait de reconnaître de savoir reconnaître la valeur de leur patrimoine, parce que c'est leur propriété, leur outil de travail, c'est voilà, et le fait de montrer parfois tout simplement une drosera ou une espèce rare ou qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça on voit que ça fait plaisir et puis c'est normal, c'est des choses qu'on connaît pas, certaines choses on découvre de nouvelles espèces, et puis le fait de savoir que ces personnes-là contribuent à préserver ces espèces-là, je pense que c'est un bon outil d'appropriation quoi.
Oui, puis finalement, on a tous le même objectif de préserver cette ressource et de pouvoir l'utiliser de manière durable, quoi.
Oui, oui, on espère. En tout cas, c'est de plus en plus développé. Alors pas seulement en Lozère, mais un petit peu partout en France et à l'échelle internationale. C'est pour ça aussi qu'il y a des événementiels comme la Journée mondiale pour les zones humides. C'est aussi pour parler de ces milieux qui effectivement avaient très mauvaise presse. Ont eu très mauvaise presse par le passé, qui ont fait l'objet de travaux lourds, d'aménagements, qui étaient destinés à les assécher, il fallait faire sortir l'eau. Alors, ça peut se comprendre a posteriori, mais aujourd'hui, on sait que c'est des milieux qui sont essentiels pour notamment les divers sujets qu'on vient d'aborder. Donc la question, c'est de savoir comment on fait maintenant. Mmh. On sait que les milieux humides, forcément, ils sont liés à l'eau, donc il faut garder l'eau dans les milieux humides. Comment on fait pour vraiment les prendre en compte de manière
globale,
ouais. Et c'est nous, on pense que c'est par du partenariat et par la transmission de connaissances, mais qui se fait aussi dans les deux sens, et dans le partage, ouais, voilà.
Est-ce qu'il y a un intérêt en termes de production aussi pour l'agriculteur?
Tout à fait, parce que c'est pareil, c'est des milieux qui ont eu mauvaise presse pendant longtemps, mais parce que c'est aussi une vision de la nature qu'on opposait à des enjeux économiques au sens strict. Et donc c'était facile de dire, sur certains milieux qui sont complexes, parce que c'est des milieux qui sont difficiles quand même, on peut pas toujours entrer dans les, enfin il y a des...
C'est marécageux,
c'est pas portant, c'est quand même compliqué. On peut pas utiliser les parcelles où il y a les tourbières pendant toute l'année, enfin voilà, il y a quand même des
contraintes fortes.
Des contraintes, ouais. Alors fortes, après, ça dépend comment on se positionne. L'idée, c'est d'essayer de trouver comment revaloriser ces milieux, parce que on a aussi dit pendant longtemps que il y avait rien à manger, que de toute façon les bêtes y allaient pas, ou enfin voilà, que c'était des terrains complètement inutiles. Et en fait, il s'avère que en fait, en observant, en partageant des observations, on voit très bien que c'est des milieux qui sont fortement utilisés par le bétail, notamment pendant les périodes de sécheresse, que selon les périodes où les animaux vont pâturer, ils vont préférer telle espèce, telle espèce, telle espèce. Mais évidemment, c'est pas du dactyle, c'est pas du trèfle. Voilà, on va trouver tout un cortège différent d'espèces inhabituelles, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus étudiées, on va dire observées.
Et de mieux en mieux connues.
Et de mieux en mieux connu. Et on entend beaucoup, effectivement, sur le terrain. Heureusement que j'avais mes tourbières, heureusement que j'avais mes zones humides. Ça m'a permis de passer
la période de sécheresse
sans apporter du foin. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aussi à faire...
À faire valoir, oui. Ouais, effectivement, les zones humides permettent vraiment cet intérêt de réguler l'eau, du coup, de renvoyer et d'alimenter... pendant plusieurs mois les ruisseaux, donc ça a un effet pas à un endroit strict et pas ponctuellement, mais justement sur une longue distance, mais qu'en plus ponctuellement, si on a une zone humide sur son exploitation et sur ses terrains, et ben voilà, c'est un endroit qu'on va pouvoir continuer à exploiter même pendant les périodes difficiles.
Et c'est très très net, pour le coup, pour les gens qui connaissent pas bien ces milieux-là, les périodes de sèches. En fait, il suffit de monter sur l'Aubrac ou sur le Mont Lozère ou en Margeride, et on voit très bien le contraste entre l'herbe qui est grillée, puis les zones où il y a du vert, c'est des zones humides.
Voilà, et là on peut chercher les droséras, plantes carnivores, les orchidées, les lézards, les grenouilles, les vipères aussi, c'est vrai, il y a des vipères dans les tourbières, les libellules, les loutres, etc.
Les dolomètes striés.
Voilà, le naturaliste est tout fou, mais l'enfant et le visiteur lambda peut l'être aussi.
Oui, et juste, j'ai pas parlé dans les espèces, parmi les espèces remarquables du département. On en a quelques-unes qui sont vraiment particulièrement rares, dont le boulonnin, qui est une espèce, un petit arbrisseau vraiment caractéristique de la zone boréale, et qu'on peut observer en France dans certaines tourbières. Donc c'est quelque chose de finalement assez rare, alors que les Lozériens connaissent sans doute, mais voilà, pour observer du boulonnin, il faut aller à la Jau. Après dans le Jura, et puis après en Scandinavie.
Donc, c'est le plus près finalement.
Ouais, ouais.
Ça fait un peu loin.
Alors il y a d'autres espèces aussi pour lesquelles le département a aussi une responsabilité assez forte. Hein. C'est par exemple la ligulaire de Sibérie.
Qu'est-ce que c'est ?
La ligulaire de Sibérie, c'est une grande plante qu'on va observer. Alors pour le coup, sur certaines tourbières de l'Aubrac, on a, je crois, 3 à 4 stations de recensées sur l'Aubrac lozérien. Voilà, une grande plante qui fait des fleurs jaunes, et voilà, qu'on peut observer de manière, mais c'est une espèce qui est relativement rare. On a aussi le saule des lapons. Alors voilà, rien que par le nom, on est déjà un petit peu en voyage. Le saule des lapons qu'on observe sur certaines tourbières également, et puis d'autres espèces, mais bon, vous pouvez retrouver des infos sur divers sites. Donc, en appelant les associations.
Voilà, en allant faire des balades avec le Sen ou la LEP.
Tout à fait.
Donc on a en gros des petits bouts de Sibérie, de Laponie et de Carélie en Lozère.
C'est ça.
Qu'il ne faut pas hésiter à aller voir du coup. On pourra peut-être mettre quelques photos, soit sur le site de 48FM ou de la LEP, je ne sais pas si...
Oui, voilà, ou sur le site du Sen aussi, il y en a pas mal. Donc on pourra mettre des liens sur le site de 48FM.
Ça serait sympa, oui. Merci beaucoup en tout cas, Anne, pour votre participation, pour la chronique de la LEP. Merci Muriel.
Ben, merci à toi.
Merci.
On se retrouvera la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.